Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct. Et par extension, ou un musulman.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, Salam, Azoul, quel bonheur d'être en votre compagnie en ces jours bénis. Et donc le crime et un tas d'autres méfaits y sont proscrits normalement. Hélas, ce n'est pas le cas. Voyez le sort des musulmans partout sur le globe, à croire qu'il est permis et même toléré que les interdits et les limites de Dieu soient enfreints et dépassés, et surtout à l'encontre de ses fidèles et de ses plus dévoués. Malheureusement, nous continuons d'être aveugles, car tous ces signes, ces grandes épreuves et ce tumulte sont annonciateurs de quelque chose de plus grand, quelque chose d'immense. Les doués de Basira voient en cette accélération des événements plutôt la réalisation des hadiths eschatologiques. Nous sommes dans les années ou les mois qui précèdent l'avènement du petit-fils de Sidna Rasulullah, celui qui en finira avec Sinin al-Khada'at, comme disent certains hadiths. Le Mahdi, le lieutenant de Dieu sur terre, celui qui ramènera l'humanité à sa raison et à son bon sens. Mais le prix sera certainement fort payé avec tout ce qui succédera à ces événements et surtout cette Adam Fitna dont tous les prophètes ont averti leur population, al-Masih al-Dajjal. Tous ces épisodes de la fin des temps seront des événements où les gens souhaiteraient se trouver à la place de leurs morts sous terre dans leur sépulture. Et détrompez-vous, ce n'est point le scénario d'un film que vous pourrez voir sur Netflix. Ce sera du vécu et vous serez l'acteur principal. Et pour vous protéger et vous sécuriser, seul le tawhid et le respect des enseignements du prophète alayhi salam vous sauverez. Regardez, observez et cogitez ce verset, chers amis auditeurs, vous qui commentez nos propos chaque week-end et vous qui nous envoyez vos réflexions autour de nos thématiques. Dieu Ta'ala, dans la sourate Al-Imran, verset 132, nous dit « وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » Salam alaykum Kamal Shekat.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque. Vous avez dit où le crime est proscrit. Le crime est proscrit tout au long de l'année.
Ouais.
C'est la moindre forme d'agressivité proscrite pendant les mois sacrés. Les musulmans ne portaient pas sur eux les armes durant ces mois sacrés, même les arabes avant eux. C'est-à-dire que nous supposons que c'est une tradition du prophète Ibrahim, alayhi salam. Donc, ça n'est pas le crime qui est proscrit. Toute hostilité, toute forme d'agressivité est proscrite. Bien sûr, quand vous êtes musulman, vous avez le droit de vous faire lyncher. C'est pas un problème.
Ouais. Alors, pour nous préserver de tous ces tumultes, Kamal Shekat, wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun.
Oui.
Rahma, ici, ça veut dire quoi? C'est quoi le sens de Rahma ici?
C'est le fait d'être épargné, en quelque sorte, de ne pas subir toutes ces épreuves de plein fouet, comme les subiraient d'autres personnes. Mais quand Dieu dit la'allakum turhamun, cette miséricorde à laquelle nous sommes censés arriver, nous n'y arriverons pas uniquement par des actes cultuel, ou du moins par le fait de s'arrêter au cultuel, l'ibadat ou bien ta'abbut. Cette rahma, cette miséricorde, nous l'atteindrons le jour où tout ce que nous avons voué à Dieu au niveau du culte sera traduit par un comportement en société. C'est ça, rahma.
Alors, Kamal Shekat, dans le Coran, on peut trouver beaucoup de versets qui nous incitent au respect et à la ta'a de Dieu Spanou et de son prophète.
Oui.
Alors, je vous en cite quelques-uns.
Oui.
Dans la sourate Nour, verset 54, Dieu dit: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
Oui.
Verset 33 de la sourate Muhammad: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.
Oui.
Verset 12 de la sourate Taghabun: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Je laisse le dernier verset pour tout à l'heure. Alors, Kamal Shekat, Dieu subhanahu évoque le prophète à ses côtés.
Oui.
Allah wa ati'u ar-rasoul.
Bita'atin mufrada. Ça veut dire que là où il est question d'obéissance à Dieu, il est question au même titre à une obéissance au messager de Dieu, alayhi salatu wasalam. Ceci parce que, tout d'abord, ce prophète ne faisait rien ou ne disait rien sans l'effet de l'inspiration divine. Même quand il parlait sous l'inspiration divine. Il ne parle pas de son propre chef. C'est une fête, une inspiration qui vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui revient dans l'évangile de Jean quand Jésus alayhi salam parlait du paraclète. Il ne parlera pas de son propre chef. Et là encore, à tous ces illuminés qui maintenant commençaient à véhiculer une fausse idée, qui voudraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un illettré. Comme ils le disent, non, c'était quelqu'un de parfaitement lettré. C'était quelqu'un de parfaitement instruit parce que son instruction, c'est Dieu qui la lui a donnée, au même titre qu'Adam. Mais c'était un illettré qui ne savait ni lire ni écrire. Et c'est pour cela...
D'ailleurs, dans Sulh al-Hudaybiyah, il demande à
Ali d'écrire.
Exactement,
oui.
d'effacer.
Rasulullah. Ali n'a pas voulu le faire. Et on a dû lui montrer où se trouvait Rasulullah pour qu'il puisse effacer. Là encore, pourquoi je parle de cela? Parce que je reviens à la citation du paraclet ou paraclète, parakletos. Il y a certains spécialistes du grec ancien qui disent « périkultos » plutôt que « parakletos », qui signifie « le digne d'être loué », ce qui rejoint à tout point de vue le nom de Mohammed, Mahamadim, qui reste une énigme jusqu'à présent. Bien sûr, lisez le...
Certainement, c'est une énigme.
C'est pas une énigme, bien entendu, bien sûr que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité nommément dans l'Ancien Testament.
Ouais.
Là, je crois que c'est les
le
Mazamir, c'est le livre des psaumes. Pourquoi je reviens sur ça? C'est parce que dans cette même annonce du paraclète, il est dit, c'est Dieu qui parle, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'écrivait pas, mais qui transmettait par la parole. Ce qui indique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un parfait illettré, contrairement à ce que veulent véhiculer les coranistes. Et donc, « wa ati'u Allah, wa ati'u Rasul », ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa tradition, va nous détailler, nous expliquer, nous lever les points énigmatiques du texte coranique. Et à ce titre, on doit lui vouer, si l'on est réellement croyant, une obéissance absolue au même titre que Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'il est à la hauteur de Dieu. Ça veut tout simplement dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de faire, nous sommes tenus de le faire, et que nul ne vienne nous dire « non, on va se fier au Coran uniquement ». Et ça, uniquement.
Ça sera ma prochaine question, Kamal Shkat, avec le verset 32 de la sourate Ali Imran. Mais là, par rapport à ces versets que je viens de citer, je n'ai pas terminé ma question. Je voulais vous demander comment être sûr que de Sidna Muhammad, alayhi salatu wasalam, qu'il s'agit. Dieu parle juste de Rasoul.
Oui.
Il a eu énormément d'envoyés et de messagers. Comment savoir que c'est de Sidna Muhammad qu'il s'agit?
Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, et eu égard au respect qu'il témoignait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne le cite qu'à deux reprises,
quatre
nommément.
Il dit
Mohammed. Pour le reste, c'est Rasoul, c'est Nabi. C'est une forme de respect. Et puis, quand nous lisons ces versets, tout indique qu'il ne peut que s'agir de lui.
Parce que c'est le porteur du dernier message.
Tout simplement.
Et donc, il annule tous les précédents.
Nous avons des passages du Coran où on cite Rasoul. Mais dans ce que nous appelons « Qasas al-Anbiya », les récits des prophètes, et nous savons de par la structure même de la langue arabe, et aussi en fonction du texte coranique dans lequel se trouve le mot Rasoul, qu'il ne s'agit pas de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais d'autres prophètes que l'on peut désigner.
Il y a Ibrahim, il y a Ayyub, absolument. Il y a Yahya, il y a Isa.
Même le mot Rasoul. Là, je n'ai pas de passage bien précis en mémoire, mais nous pouvons trouver Rasoul. Et où il n'est pas du tout question de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est très facile à comprendre.
Là où il y a Dieu subhanahu à côté de lui, Rasoul, c'est de Sidna Mohammed qu'il s'agit.
Absolument.
Kamashkat, vous avez commencé il y a quelques minutes à développer cette idée d'obéissance totale à Dieu et à son prophète. Et justement, dans la sourate Al-Imran, dans le verset 132, je trouve que ce verset est complètement différent des précédents. Et ce qu'il annonce, et contemporain, ou peut-être destiné aux gens d'aujourd'hui, de notre siècle, Dieu subhanahu dit « قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ »
Oui.
Les coranistes, c'est ceux qui annulent le message de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Les coranistes...
Ils les traitent carrément de kafirines.
Les coranistes, qu'on le veuille ou non, sont dans une forme de mécréance dans la mesure où ils veulent annuler toute forme de tradition prophétique, déjà. Sans même que nous allions jusqu'à dire d'eux qu'ils sont koufar. On ne peut pas le dire. Oui, mais bon, c'est une forme de mécréance, mais attention. Koufrun duna koufr. Nous, quand nous parlons de tekfir, nous ne plaçons pas tout le monde à la hauteur de Pharaon, de Haman, de Qarun. Ça n'est pas la même chose. Il y a des gens qui peuvent tomber dans la mécréance sans pour autant qu'ils subissent les mêmes peines ou le même sort que ces grands, ces icônes de la mécréance.
C'est notre classification
du
kufr.
Oui, bien sûr. Nous savons, vous savez, c'est une question très très délicate. Le problème est que ces gens-là, ceux qui se disent coranistes, ils sont venus au prétexte de libérer, d'émanciper les musulmans. Ils ont dit voilà, nous allons nous fier uniquement au Coran. Ce qu'il donne, justement, est attaquable à plus d'un titre. Ensuite, ils se sont érigés en conscience des peuples et ils ont imposé une vision qui, selon ce qu'ils disent, est la seule vision en conformité avec les préceptes de l'islam. Et quiconque ne réfléchit pas comme ça agit, en quelque sorte, contre la religion de Dieu. Et c'est une forme de tekfir, hein, qu'on le veuille ou non. C'est des exclusionnistes. C'est comme, on peut pas les traiter autrement. Mais le problème est que tout dans le Coran dément ce qu'ils disent, dément ce qu'ils sont en train de produire.
Donc, si c'est un kufr d'una kufr.
Honnêtement, c'est du ressort de Dieu. Oui. Vous prenez quelqu'un comme l'Hallaj. Il a dit un certain nombre de choses que toute personne douée d'un minimum de connaissances religieuses ne peut accepter. Wa in yala arallaha fi jubbati. Hada hada su'u adabin ma'allah. Mais en dépit de cela, beaucoup de savants de l'islam ont dit, dans ces propos, il y a de la mécréance. Fi hada al-kalam et kufr. Mais beaucoup ne sont pas allés jusqu'à le traiter de kafir.
Beaucoup ont dit qu'il a proféré des choses qu'il devait taire et c'est
tout
pour
simplement
ça qu'il a été puni.
Oui, mais puni par l'emprisonnement ou par une mise en quarantaine.
Par un écartèlement, carrément.
Oui, la peine de mort qui a été la sienne, qui s'en sort en quelque sorte, c'était beaucoup plus un crime politique que religieux.
Oui, Junayd ne l'avait pas désavoué.
Personne, écoutez, beaucoup de savants ont dit qu'il n'a pas été compris. Il n'a pas été compris, ce qui signifie...
Que ce soit pour lui ou bien pour Yazid al-Bistami, qu'on accule pour ses fameuses chatahat.
Oui, bien sûr. Vous avez Sohrawardi, Sahib al-Ishraq aussi, qui était dans une errance totale, en quelque sorte. Les grands
on
savants...
On parle de Hulul aussi pour Ibn Arabi.
Oui, bien sûr.
Et vous avez ce hadith Qudsi, Kamal Shakat, dans lequel Dieu subhanahu dit « Ni messieurs ni ma terre ne peuvent me contenir, sauf le cœur de mon serviteur croyant. » Là aussi, on peut parler de Hulul.
C'est une forme d'allégorie, ça ne peut pas aller jusqu'au hulul, parce que la réincarnation ou bien l'incarnation est un concept qui a été puisé de l'hindouisme ou
exactement.
Du védisme. Vous savez, nous avons appris de par nos maîtres à parler de Dieu ou à essayer de le représenter mentalement comme lui s'est annoncé à travers ses textes, essentiellement le Coran. Ce qui était bien avec bon nombre de savants, c'est que, par exemple, dans l'aqaïd, dans tout ce qui a trait au dogme, ils n'acceptaient pas un hadith ou l'ahad, c'est-à-dire les hadiths qui n'ont qu'une seule transmission. qui n'ont été rapportées que par une seule personne.
Même si c'est un calife bien guidé, comme le hadith de Omar ou Jibril.
Oui, bon, ce hadith, il est vague. Il ne va pas dans le détail du détail d'un point relevant de l'entité divine.
Oui, ça mais n'est c'est pas, l'islam ou l'iman.
Oui, mais ça n'est pas du tout la même chose. Là, nous sommes dans quelque chose de plus vaste, de généralisé. Ça ne pose pas de problème. C'est la meilleure manière de se représenter Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Le dernier verset de la sourate Al-Hashr, par exemple.
Oui, là, ça parle beaucoup plus des noms sublimes de Dieu.
Oui. Et le problème. Mais il le représente, ces noms
oui,
sublimes.
Oui, bien sûr, il le représente. Il représente même magnifiquement ses attributs. Le problème avec tout ce volet est ayant trait au dogme. Bab al-Aqaïd, c'est que les grands savants de l'islam se sont querellés, ils se sont adonnés à des joutes oratoires les uns contre les autres d'une manière plus qu'absurde. À telle enseigne que le khilaf, leur divergence, est sortie du cadre, on va dire, théologique, académique qui était le leur, pour aller s'étaler dans la plèbe, en quelque sorte. Le dernier des communs des musulmans a commencé à parler de dogme. Et c'est ça qui nous a perdus. Parce que ils auraient pu taire tout cela, ils auraient pu garder tout cela pour eux. Et c'est la sagesse qui était celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Huraira essentiellement. Akhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai deux contenants du messager de Dieu. L'un, je voulais diffuser ou publier. Si je vous faisais part du second, vous me trancheriez la tête.
Vous pensez que c'est une sagesse?
Absolument. Absolument.
Pourquoi donc aujourd'hui l'imam tout
Malik,
est publié?
L'imam Malik, quand cet homme, un inconnu, est entré, que signifie l'Ar-Rahman ala l'Arshistawa? Que signifie Dieu s'est établi sur le trône? Qu'est-ce qu'il a fait? Qalu atraqa ra'sah, il a baissé la tête. Wa alathu ar-rukhada, il a été pris comme d'une fièvre. Wa tasabbaba 'araquh.
Parce que la question était complexe ou pour autre chose?
Il
pour d'autres considérations.
Il allait parler de Dieu. Hada huwa al-adab. C'est là qu'il a dit l'istiwa'u ma'loum. Donc c'est quelque chose de bien clair. Elle est connue parce que c'est établi dans le Coran de manière un peu plus claire. Ou al-kayfu majhoul. Comment la chose se fait, nous ne le savons pas. Ça n'est pas possible de s'imaginer la chose. Parce que si vous dites Dieu est sur le trône, ça veut dire que vous avez athbatti lillahi al-jihata. Vous lui avez donc attribué un coin.
Alors qu'il est loin, c'est à qui?
Oui. Donc l'istiwa'u ma'loum, wal kayfu majhoul, wal imanu bihi wajib. Donc y croire est une obligation religieuse, parce que il s'agit d'un verset coranique qui annonce un fait ayant trait à l'entité divine. Wa su'alu anhu bid'a. Poser des questions sur ce genre de problématique est une innovation, dans la mesure où les premiers ne l'ont pas fait.
Ça veut dire qu'ils n'étaient pas aussi pertinents pour poser pareilles questions, les premiers?
C'est des questions qui ne peuvent que vous bouffer votre matière. Je m'excuse du terme, bouffer, mais ça va vraiment vous consommer votre substance intellectuelle, parce que vous n'arriverez jamais à une réponse. Souvenez-vous de cette question « Khalq al-Qur'an ». Jean Damascène vient, lance dans la communauté musulmane une question piège. Est-ce que la parole de Dieu est créée ou est-ce une parole créée? Alors, si vous dites « c'est une parole incréée », ça veut dire que Jésus est d'essence divine, parce qu'il est dit dans le Coran « wa kalimatullah », c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous le savons tous, c'est « kun fayakun », c'est ce souffle divin qui a survenu après un ordre divin. Il concerne tout le monde. Est-ce que nous sommes pour autant d'essence divine? Est-ce que je peux dire que Dieu est mon père? Il ne l'est pas, il est mon Dieu. Et si vous dites non, ça veut dire que le Coran est makhlouq. Ça veut dire que nous avons affaire à une créature qui est susceptible de manquements, de faiblesses, de tout ce qui a trait aux créatures. Et à partir de là, le Coran en tant que livre n'est pas fiable à 100%. Et alors les Mu'tazila, qui avaient beaucoup d'emprunts ou pris des choses comme ça, des concepts venus de l'hindouisme, du védisme, de pratiquement du brahmanisme, de toutes les religions possibles et imaginables, des anciennes philosophies, et qui n'avaient pas de réponse, sont allés jusqu'à dire que voilà, le Coran est makhlouq, pour éviter que Jésus ne devienne d'essence divine. Alors que vous savez, vous prenez n'importe quel chrétien, vous lui dites, Jésus est le Fils de Dieu, il vous dit oui. D'accord. Et Adam est-il le Fils de Dieu? Si maintenant vous prenez Jésus pour le Fils de Dieu parce qu'il est né sans la contribution d'un père, pourquoi Adam ne le serait-il pas? Il est né sans son parent.
Ni père ni mère.
Ni père ni mère.
Beaucoup mieux que pour Aïssa. Bon, mais
il est hautement plus élevé en rang. Donc attendez. Et donc, eux, dans leur délire, ils se sont dit, voilà, maintenant nous allons forcer tout le monde à adhérer à ce point pour fermer une porte. On va fermer la boîte de Pandore. Et la chose a duré ainsi. Après, je ne sais combien de savants qui ont été lynchés, torturés,
exécutés.
On arrive à Ahmed ibn Hanbal, qui jouissait d'une notoriété qui dépassait celle des Abbasides. Ça commence avec le Ma'moun, on arrive à Al-Mutawakkil, et c'est toujours ibn Abi Douad. Donc, nous sommes à l'image des coranistes. Et de ceux qui suivent leur sillage, ils sont toujours là à parler. Oui, les fuqaha, ils ont travesti la religion, ils nous ont imposé une manière de voir. Maintenant, ils sont tous en train de dire, oui, nous sommes dans une religion judaïsée. C'est-à-dire que voilà, les fuqaha ont fait l'œuvre des rabbins, des juifs du temple. D'accord. Et alors, on va forcer les gens à réfléchir comme nous, sous l'effet d'une sorte d'inquisition.
C'est une inquisition.
C'est une inquisition. Et les choses vont durer ainsi jusqu'à ce que l'on ramène des postes avancés. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui était avec l'armée en train de combattre pour l'islam et les musulmans. On va le ramener parce qu'il jouissait d'une certaine science ou d'un degré de science pour l'examiner ou lui faire passer un examen devant le Mutawakkil. Mada taqulu fi kitabillah ahwa makhluqun munazzal. Il n'a pas répondu. Il a regardé Ibn Abi Douad, qui était le ministre de l'Mutawakkil, qui a été l'un des maîtres de l'Ma'moun aussi, et qui était une sorte de laïc pratiquement, parce qu'il se présentait comme une entité jouissant d'une certaine science, mais pas religieuse au premier degré. Donc il agissait toujours par opposition aux religieux, entre guillemets. Et l'autre le regarde et lui dit, ce concept auquel tu appelles, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, y ont-ils appelé? Tu n'as que deux alternatives, hein. Soit tu me dis, ils étaient bien au courant de ce problème, ou ils l'ignoraient totalement. Alors, s'ils étaient au courant de ce problème que toi tu as transformé en problème, c'est-à-dire, le livre de Dieu est un livre créé et non incréé, et qu'ils se sont tus sur cette question. Donc, il est plus salutaire pour toi et pour moi de nous taire sur une question sur laquelle se sont tus les premiers grands noms de l'islam. Si tu me dis, non, ils ignoraient, ils n'ont pas pu cerner ou savoir ou entrevoir ce type d'énigme, toi, gueux en quelque sorte, fils de gueux, ouais, tu saurais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les quatre premiers califes ignoraient. Et là, le Mutawakkil a commencé à dire, astaghfirullah, il avait compris que lui et ses aïeux avaient fait une hécatombe. Donc, se taire sur une chose qui ne vaut même pas le coup d'être citée. Parce que combien même vous travailleriez vos méninges, vous n'arriverez jamais à une réponse. Et ça me renvoie à une question maintenant que l'on voit, que l'on commence à voir sur les réseaux. Je vois les juifs du temple, ceux-là même qui s'appellent, se sont affublés du mot salafi alors qu'ils n'ont rien à voir avec salaf salih, ni sur le plan moral, ni sur le plan même le plus rigide en termes d'observance des commandements de Dieu. Vous les voyez là où l'islam à la mode veut que les juifs sont des gens bien et les palestiniens des terroristes. Inna Allah, où est Dieu? Et la bonne réponse serait de dire Inna Allah fis sama. Allahu Akbar. Il est vrai que tous les textes, vous direz, quand on parle de Dieu, on dit « Nutbitu lahu l'ulu », la hauteur. « Hal nutbitu lahu l'ulu » parce qu'il est dans une position haute, élevée par rapport à nous, ou tout simplement par respect au rang qui lui est dû. Beaucoup de savants, notamment ceux de l'école Ash'arite, sont d'avis que voilà, on ne peut pas lui attribuer la hauteur, parce que Dieu, subhanallah, il ne peut pas être contenu en un lieu. Ça n'est pas possible. Admettre cela serait aller à l'encontre de ce que nous devrions imaginer de Dieu, subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur. Et on va se fier à ce fameux hadith qui est hadith ul-jariya. Hadith al-Jariyati la tubna 'alayha 'aqida. Vous savez, dans tous les livres qui sont les leurs, à commencer par ceux de d'Ibn Taymiyyah, قول العلماء في إثبات العلو لله ou bien أن الله في السماء وقال مالك وقال أبو حنيفة. Tout le monde disait cela. Nous sommes d'accord avec vous. Et on va vous citer ce fameux hadith rapporté par Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Un homme est venu avec une esclave et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de la franchir. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit hadith al-hadith sahiha. Ceux qui ont dit hada hadithun da'if, c'est faux. Qala ayna Allah? Qalat fi as-sama. Où est Dieu? Il est dans le ciel. Qala man ana? قالت أنت رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة إنها مؤمنة. Pas parce qu'elle a dit que Dieu était dans le ciel. Elle reconnaissait donc qu'il y avait un Dieu et elle reconnaissait surtout qu'il était le messager de Dieu. Parce que si vous reconnaissez qu'il y a un Dieu, comme c'est le cas d'un juif ou d'un chrétien, et que vous ne reconnaissiez pas Mohammed صلى الله عليه وسلم et son apostolat risalatoh, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le pur monothéisme, tout simplement.
Donc ne pas assimiler qu'il ne soit pas confiné dans un lieu physique, c'est pas très important.
Bien sûr, mais moi ce que je voudrais que les gens comprennent, vous nous dites « Inna Allah fis sama ». Ensuite, vous devenez le suppôt du sionisme international. Vous travaillez contre l'islam. Et nous les avons vus. Attention, le problème, je suis pas en train de vous parler des madakhila, al-jamiya, al-muhabiya uniquement. Nous avons aussi une frange de ceux qui se réclament d'un soufisme ishraqi, d'illuminés, qui sont là. Nous les avons vus. Hein. Moi, j'ai été ahuri de voir quelqu'un comme le Jifri dire « Akrahu fi'la Netanyahu, lakinni ahibbuhu ». Ah bon, tu aimes Netanyahu?
Le Yémenite a
oui, le Yémenite.
Allahu Akbar.
Parce qu'il est dans ce qu'on appelle House of Abraham. Il est devenu l'une des icônes de ce syncrétisme qui a été initié par les descendants de Qaramita, ceux qui ont toujours trahi l'islam et les musulmans. C'est-à-dire que quand nous parlons de aqaïd, pourquoi ne pas aller à l'essentiel? Bon, oui. Inna Allah fi sama. Vous savez, il y a des choses qui interpellent. Nous avons cette personne, une inconnue dans l'histoire, qui est venue de Hamadan et qui s'est adressée à l'imam al-Juwayni, rahmatullahi alayhi, disant, ô imam, pourquoi quand nous dirigeons vers Dieu, nous avons tendance à regarder dans le ciel? Faqal al-Juwayni, je pense qu'il a dit, halakan il-Hamadani. Et c'est vrai, quand vous êtes dans la détresse, par exemple, vous n'avez pas remarqué que quand vous voulez vous adresser à Dieu, vous regardez dans le ciel. Ouais. Vous avez vu les petits bourgeons d'une plante, comment est-ce que ça tourne dans le sens chiral?
Exactement.
Et ça va vers le ciel. C'est quelque chose qui relève, à mon sens, de l'innéité. Nous devenons comme des végétaux qui ont tendance à essayer de regarder vers le ciel. C'est inné. Est-ce que ceci voudrait-il dire pour autant que Dieu est dans le ciel et non partout? Vous avez les propos de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui disait wa inna Allah fi as-sama'i bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi 'ilmihi. Donc il est de son entité, avec son entité, il est là-haut dans le ciel et il est partout avec sa science. Ça rejoint ce qui a été dit par Dieu subhanahu wa ta'ala à Moïse. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, je vois et j'entends. Mais comme le disent certains, had al-kalam laysa lahu dalil. De ce qui a été dit par Imam Ibn Abi Zayd, il n'a pas de preuve tangible de ce qu'il a dit. Donc moi, à la limite, inna Allah fi sama. C'est une manière de voir que je peux accepter, dans la mesure où cette hauteur, elle va beaucoup plus me mettre dans ce respect que je devrais témoigner à Dieu. Mais vous en avez fait un point qui va vous distinguer de tout le monde, c'est-à-dire quiconque n'adhère pas à cette idée n'est pas un bon musulman, et en même temps, c'est vous qui êtes en train de détruire l'islam et les musulmans. Vous êtes avec les ennemis de l'islam, partout où ils sont. Vous êtes contre l'islamisme et les musulmans partout dans le monde, et vous vous dites des super musulmans. Alors essayez de m'expliquer tout cela. C'est quoi cette aqida qui fait que nous avons un mécréant qui est en train de détruire les mosquées, de tuer les musulmans, femmes, enfants, vieillards, vieilles dames, etc. Et vous, vous venez là, vous nous dites, bien sûr, ils n'ont que ce qu'ils méritent, c'est eux qui sont allés chercher querelle à ces mécréants. Quand il y a eu le conflit en Irak, oui, non, mais attendez, on ne peut pas s'opposer aux mécréants parce que il faut avoir l'aval de Wali al-Amr. Il faut que les détenteurs du pouvoir nous donnent l'autorisation d'aller nous battre contre l'injustice. Qui était le détenteur du pouvoir? C'était un certain Bremer. Attendez, vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de dire? Et ces mêmes personnes sont celles qui passent leur temps. Inna Allah fi sama. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de savoir que Dieu est dans le ciel? Quand toi, le bon super musulman, deviens un instrument de l'injustice, de la discorde, de la division, de la haine entre les musulmans, quand tu deviens un joujou entre les mains des juifs et des chrétiens qui ne cherchent qu'à anéantir l'islam et les musulmans, en quoi te sert cette connaissance qui dit « Inallah fissama » ? En quoi cela peut-il te servir de savoir et de propager comme notion incontournable que Dieu est dans le ciel ?« Inallah fissama » Pourquoi toi-même tu n'y crois pas? Inna Allaha fis sama. Il est le Très-Haut, il est celui qui observe. Pourquoi es-tu au service des ennemis de la religion de ce même Dieu que tu as propulsé tout en haut? Beaucoup ont passé leur temps à parler de Aqida, oui, avec des détails d'une précision chirurgicale. Ils ont été les premiers traîtres contre la nation de l'islam.
C'est des musulmans, certes, mais ils ont reconnu que leurs pays sont faibles, donc ils s'allient au plus fort, tout simplement. Dans la culture locale.
Il y a le local poteau, comme on dit chez nous. Oui, même si c'est un poteau électrique. C'est-à-dire que on va s'allier.
Ça sert à beaucoup le poteau électrique, Monsieur Kate.
Oui, contrairement à leur poteau.
Alors Kama Shekat, il faut qu'on termine cette émission d'aujourd'hui, une émission qui est consacrée donc aux bénédictions sur le prophète alayhi salatu wassalam et à tous les mérites qu'on pourrait récolter à travers salat ala Sayyidina al-Habib al-Mahboub alayhi salatu wassalam wa ala Ali Baytihi Tahirin. Cette question de l'inquisition du Coran qui nous a amené à parler de Dieu subhanahu, donc pour bien connaître l'entité divine, il faut lire le Coran. كما يحب ربنا ويرضى
ان شاء الله
il faut maîtriser les attributs de Dieu et l'asma Allah al-husna.
Il faut s'en affubler,
parce qu'il est vrai que dans les textes religieux, dans la culture religieuse, tout le monde vous dit que Dieu est au-dessus des cieux et sur le trône. Dans les versets coraniques, il est dit que Dieu est avec nous où que nous soyons, plus proche de nous que la veine jugulaire. Et vous avez ce hadith que nous avions cité en début d'émission, hadith Qudsi, ni mes cieux ni ma terre ne peuvent me contenir, seul le cœur de mon serviteur croyant peut me contenir. Lam tasani ardi wa la sama'i walakin yas'ani qalbu 'abdi al-mu'min.
Écoutez, c'est un hadith qui, d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire si nous nous fions à son étude en termes de transmission, beaucoup ont dit hadithun la asla la. Ça veut dire qu'il ne peut en aucun cas figurer parmi les propos du messager de Dieu, d'autant plus que c'est un hadith qudsi, hadith dit divin.
De grands imams le citent et disent « an nabiyyihi an rasulillah » comme l'imam Sharawi.
Oui, bien sûr. Je ne peux pas vous donner un avis définitif concernant le hadith ou le hukm ou le hadith. « Hal huwa fi hukmi sahihi ami dda'ifi ami l'maudou' » carrément, hadith forgé de toutes pièces.
Mais est-ce qu'on peut douter de la rectitude de quelqu'un comme Imam Sharawi, de
non,
son savoir, de ses connaissances?
Non, ça n'est pas ça. Mais nous savons que de par les sentiments, la foi peut être d'une immensité incroyable. La miséricorde peut être d'une immensité incroyable. Nous sommes dans des allégories qui sont parfaitement admissibles. Parce que le cœur d'un croyant est quelque chose qui peut faire vibrer le trône de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est cela même qu'il va falloir essayer de se représenter. Moi maintenant, quand quelqu'un me dit cela, on parle ici d'un musulman dont le cœur pourrait contenir cette entité divine. Qu'est-ce que je vois moi dans ces propos? Je vois que le cœur d'un croyant peut contenir la miséricorde de Dieu, la sagesse de Dieu, la bienséance de Dieu, etc. Tous ces beaux attributs. Et quand ce cœur de croyant lis le verset de Dieu qui dit « Wafis samain irizqukum wama tu'adun ». C'est dans le ciel que se trouve votre subsistance et tout ce qui vous a été promis. Ça veut dire que sur le plan pratique, cet homme, cette personne dont le cœur est assez vaste pour contenir tout cela, nous ne parlons pas d'une entité physique, nous parlons de ce que représente cette entité. Normalement, cette personne est en mesure, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il donnait il donnait comme Crésus, comme quelqu'un qui n'avait pas peur de la pauvreté, alors que lui-même était démuni. Quand il pardonnait alors qu'il était en mesure de punir. Et c'est ainsi que vont les choses. D'un autre côté, j'attends de quelqu'un qui vient me dire « Ana salafiyun ». Moi, je suis à l'image des pieux prédécesseurs. J'attends de lui qu'en termes de comportement, il soit à la hauteur des quatre califes, des compagnons du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire quelqu'un qui, dès que vous le voyez, vous avez envie de devenir musulman. Moi, je suis désolé quand je vois ces gens-là dans la rue, et quand surtout ceux d'entre eux que je connais, avec lesquels j'ai grandi, que j'ai même côtoyé, je suis désolé. J'ai envie de tout, sauf que de m'aligner sur eux.
Kamashikat, où se situe la foi, où réside l'amour pour Dieu subhanahu et son prophète?
J'aurais eu la réponse à cette question, j'aurais été bon pour le prix Nobel en théologie.
Peut-être qu'on pourrait trouver la réponse dans le kitab Farq bayan sadr bayn al qalb wal lub wal fuad de
Hakim Tirmidhi. Oui, Tirmidhi, c'est pas évident.
Vous avez ce hadith Kamal Shikat Rubba ash'atha aghbar madfou'an bil abwab law aqsama 'ala Allah
ila abarra. Oui, il y a des gens
la connexion avec ce hadith Qudusi.
Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça dans la mesure où vous avez des gens qui ont tellement percé dans cette quête de Dieu parce qu'ils se sont mis à la recherche de Dieu pour se rapprocher de lui au maximum et qui ont atteint des degrés qui ont fait d'eux des gens spéciaux. Ça revient à celui dont il est dit فَقَالَ الَّذِي لَهُ عِلْمٌ بِالْكِتَابَ نَعْتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. Certains disent qu'il s'appelait Ibn Ba'ura ou quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom, mais c'est quelqu'un dont nos exégètes disent qu'il était connaisseur du nom ineffable de Dieu. Ismullah al-A'dam. Vous imaginez que quand quelqu'un connaît ce nom suprême de Dieu subhanahu wa ta'ala, il est porteur en lui d'une formule qui va au-delà de ce qui est magique. C'est l'arme absolue.
Vous avez parlé et de pourtant, quête de Dieu, Kamal Shikat. Oui. Est-ce que cette quête doit être déterminée par l'amour de Dieu?
Ça rejoint cette vieille dame qu'on a vue qui marchait dans la rue avec un seau d'eau. On lui dit, mais que veux-tu faire aux servantes de Dieu? À quoi te sert tout cela? Qaltaini, je cherche le feu pour l'éteindre avec l'eau.
Et
je pense pas que ce soit.
On raconte une anecdote au sujet de Rabia al-Adawiya qui prenait un seau d'eau qui disait vouloir éteindre les feux de la géhenne et allumer le feu au paradis pour que Dieu soit adoré.
Sans intérêt. Vous imaginez donc adorer Dieu sans intérêt.
Des gens comme Abu Madian Shu'aib qui était de parfaits illettrés ou Abdelaziz Dabbar, l'auteur du fameux kitab Ibris, qui étaient des illettrés, qui sont devenus de grands connaissants de Dieu, Arifuna Billah, des plus illustres cités par
bien sûr,
toute la planète
y a pas,
aujourd'hui.
Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de grands savants qui ont décidé de verser comme ça dans la quête de Dieu.
Allah, la abarrahum.
Oui, et donc la vie est une succession de réussites. C'est incroyable.
On raconte, Kamal Shikat, pardonne-moi, on raconte au sujet de l'imam al-Jazuli, l'auteur du fameux livre Dalailul Khayrat, qui a été pratiquement imprimé partout sur la planète, qu'on trouvait même à Médine et à la Mecque, mais qui a été brûlé par les Wahhabis à leur avènement.
Ils ont tout brûlé, les Wahhabis. D'ailleurs, l'histoire retiendra cela. Même les Mongols ont été plus intelligents et plus humains qu'eux, dans la mesure où maintenant, il se trouve quelques 800 000 manuscrits musulmans qui ont été rapportés par les Mongols vers la Mongolie et qui ont été conservés. Ces gens-là, le Wahhabiyoun, ils ont détruit le Khilaf al-Islamiyya, ils ont aidé le sionisme à s'établir en Arabie et ils ont détruit tout le legs spirituel des musulmans. Rissal Qushayriya, par exemple, elle a été enseignée à la Mecque pendant 40 ans. Du jour au lendemain, non, c'est mauvais, c'est pas bon. Pourquoi?
Elle est passée à l'index.
Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que voilà, les musulmans, il fallait en faire des gens appartenant à l'islam avec leur langue uniquement, pas avec leur science, pas avec leur cœur, pas avec leur pratique.
En évoquant l'imam Al-Jazuli, Kamal Shekat, l'auteur de Dala'il Khairat wa Shawariq Al-Anwar fi Dikri Salat ala Nabi Al-Mukhtar, alors on raconte qu'il a rédigé ce livre après ce qui lui est arrivé avec une Amatullah, il est arrivé à une contrée. Imam Jazuli est d'ici d'Algérie, Kamal Shekat.
Je ne peux pas...
En tout cas, il est du Maghreb, de l'Occident musulman.
Oui.
On dit qu'il est arrivé à une contrée, c'était le moment de faire la prière, il n'a trouvé point d'eau. Dans les parages, il a vu un puits, mais il n'y avait ni seau, ni contenant qui puisse lui ramener un peu d'eau.
Oui.
Une femme, qui paraissait la plus banale des femmes, est passée par là, lui demande que voulez-vous chir. Il lui dit, c'est l'heure de la prière. Et je ne trouve pas d'eau. Elle a craché dans le puits et tout le puits a explosé à la figure de l'imam Jazuli. Alors il lui demande par Dieu et son prophète, qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses réaliser pareil miracle ?
Des ruptures de l'habitude, karama.
Elle lui dit, je passe mon temps depuis mon réveil et parfois même en étant endormi, on me dit que je récite la salat sur le prophète alayhi salatu wasalam.
Oui.
Alors il s'est promis d'écrire un livre qui reviendrait sur toutes les formules de salat sur le prophète alayhi salatu wasalam.
Concernant salat al-Nabi sallallahu alayhi
wasalam,
nous avons toute une tradition qui a tendance à nous orienter vers une idée générale, qui est que cette formule, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dans toutes ses variantes, c'est presque une formule magique.
Ouais.
Nos savants passaient leur temps à formuler Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour que Dieu leur épargne des épreuves, des maux, pour que Dieu les assiste dans des missions, pour que Dieu leur facilite l'accès à certains de leurs souhaits.
Formule miracle, magique.
Pratiquement.
Oui. C'est pour ça que Dieu nous enjoint, nous exhorte à faire la prière.
Absolument.
En commençant par son entité, par sa personne.
Sa personne.
Pourquoi il a commencé par lui, Kamal Shekat, dans la sourate Al-Ahzab?
Vous savez, souvenez-vous, nous avons, avant même d'aller vers la question que vous venez de poser, vous savez, parmi certains de nos maîtres, certains, quand ils avaient un problème, ils lisaient le Munfarija.
Mm.
D'autres, quand ils étaient malades, ils lisaient le Burda. Maintenant, bien sûr, nous n'avons rien dans la tradition prophétique qui nous indique cela. Mais eux, ils le faisaient. Ils le faisaient parce que ils étaient dans une logique que nous enseigne la religion, innamal a'mal ou bin niyat. Et ils ne sont pas allés aux gens leur dire, voilà, si tu veux guérir d'un mal, lis le burda. Non. Mais il leur arrivait, avec ceux qui leur étaient proches, ceux qui leur faisaient confiance, ceux qui les connaissaient, ceux qui les côtoyaient, de leur dire, voilà, tu sais, moi, quand je suis malade, à chaque fois que je lis le Burda, je guéris de ma maladie. Et, je sais pas, j'ai eu l'occasion de vérifier cela. Et ça marche. Maintenant, ça marche pourquoi? Parce que l'intention primaire était de glorifier Dieu subhanahu wa ta'ala et de glorifier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas plus ni moins. En sachant pertinemment que ce que je suis en train de faire, c'est beaucoup plus une coutume que m'ont enseigné certains de mes maîtres, et pas plus, ni moins. Donc, pour revenir à votre question, souvenez-vous que nous avons tous les deux
trouvé une perle sur le net.
Oui, une vidéo. Moi, je vous invite à mettre ça
à la diffuser dans le. D'abord ici, dans notre émission, Kamal.
Allez-y, pour que les gens écoutent, ensuite nous traduirons et nous expliquerons.
D'accord.
Où se trouve
la
subtilité.
Vous voulez qu'on la balance aussi sur x.com, sur
Absolument.
Notre page au cœur de l'islam, chaîne 3.
Partagez le lien,
Très
tout
bien.
Simplement.
Inna Allah wa malaikata sana liya lazina wa sallu alayhi wa ayyih. Hadis khabbanu al-haya. Firtul al-Qur'an yu'a. Jami' al-awamir al-ilahiyya. Jaya dhairat. Mubasharat. Aqimu al-salah. Ma fiche muqaddim al-ayyih. آتوا الزكاة أتموا الحج والعمرة مش كده من شاهد منكم شهر هل يصوم إذا نودي للصلاة فيسعى إلى ذكر الله اتقوا الله أوفوا بالعقود كل الأوامر مباشرة إلا أمر واحد قدم له الحق تقدم تليق بإجلال وتعظيم من صدر بسبب الأمر فعمل مقدم إن الله وملائكته ملك الملوك بجد وبعدين يا أيها الذين آمنوا صلوا علمانا أساتذة اللغة قالوا إيه بقى قالوا ايه يا استاذنا قالوا قف وانا حل شوف الحب يعمل ايه شوف حب النبي قال ان للتوكيد هذا امر مؤكد واذا دخل على الجمله الاسميه يفيد الاستقرار الثبات يبقى دي مع التوكيد مع ايه مع الثبات طب يصلون تفيد الاستمرار قال التاكيد التوكيد مع الثبات والرسوخ ومع الاستمرار. قال يصلون على مين؟ لما كانت تنفع الرسل.
نعم.
تفرق يعني. قال لا تفرق. لو قال إن الله وملائكته يصلون على محمد لكان بدء الصلاة من ميلاد محمد. وقبل كده ما كانش فيه الصلاة. طب لو قال إن الله وملائكته يصلون على الرسول لكان بدء الصلاة والسلام عليه من بعد 40 سنة من ميلاد. وما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثلاث روايات الحديث. إن لا عند الله نبي وآدم منجدل في صنته ورواية وآدم بين الماء والطين إلى آخره. طيب الملائكة بتصلي إن الله يصلي يبقى يستحيل العقل البشري أن يحدد ماذا بدأت الصلاة على رسول الله.
صحيح.
لأن بقدم الله الأزلي.
نعم.
الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية.
نعم.
طيب والملائكة سبقين آدم إن جعلت في الأرض إيه؟ طيب يبقى الملائكة اللي كانوا ساكنين في الأول.
نعم.
يبقى قبل خلق النبي الملائكة بتصلي عليه.
Kamal Chekat,
donc,
ce morceau est une réponse
c'est une pépite.
Pour beaucoup d'allégations.
Absolument. Écoutez, premièrement, moi ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, avant même que vous ne me l'envoyiez vous-même, je l'avais vue et j'ai fait toute une recherche sur cette personne, je n'ai trouvé aucune trace.
Inconnu
et pourtant,
bataille.
Il est passé apparemment dans un média égyptien. C'est un connaisseur de la langue. C'est un connaisseur de la tradition, il a cité...
Il maîtrise maîtrise
aussi l'osol, quand ouais. Il vous parle de l'amr, l'impératif dans la langue arabe. Il a cité les hadiths, nous avons trois hadiths authentiques. Je suis pour Dieu ou auprès de Dieu le sceau des messagers. Alors qu'Adam était encore empêtré dans sa boue, il était à un moment donné avant même que l'âme ne lui soit insufflée. Wa Adamu bayna ruhi wal jasad, c'est-à-dire qu'il était, sa création était en cours d'achèvement. Et le dernier hadith, bayna khalqi Adama wa nafkhi ruhi fih.
Et un autre hadith qu'il a cité ailleurs, parce que le morceau est vraiment très court, on n'a pris qu'un petit passage. Le hadith où il dit « Inna awwal ma khalaqa Allah nura nabiyyika ya Jabir ».
Ce hadith existe, et puis moi, tous ces hadiths me renvoient au chapitre 39 de l'évangile de Barnabé.
Uh-huh.
Là où il est dit « Se dressant sur ses pieds, Adam vit en l'air une inscription brillante comme le soleil. » Elle disait « Il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est le messager de Dieu. » Et là, tout ceci me renvoie à une autre notion qui est celle du temps. Déjà, quand nous parlons, est-ce qu'il est admissible, eu égard au texte fondateur, que tout cela puisse être vrai? Oui, dans la mesure où il est dit dans Sourate Al-Imran, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. C'est-à-dire que là nous sommes devant un dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers.
Qui s'est déroulé quand, à quel moment
nous
de
pensons,
l'histoire,
nous ne pouvons que penser.
Était poussière.
C'est dans la préexistence apparemment, parce que dans cette préexistence, nous avons un autre verset de sourate Al-A'raf, wa idha khadara rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, mais si, nous en témoignons afin que vous ne disiez pas le jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention. Ceci nous place dans une période où il a été placé dans cette âme humaine qui a existé avant l'enveloppe charnelle, qu'il y avait un Dieu qu'il fallait reconnaître. Et c'est pour cela qu'il est très facile pour les êtres humains de reconnaître qu'il y a une divinité, sans science, sans rien. Et donc, pour revenir au verset 81 de Sourate Ali Imran, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Ça veut dire que quand nous citons ces fameux hadiths où il était question de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'Adam ne n'existe, oui, nous parlons de l'existence d'Adam en tant qu'être, en tant qu'enveloppe charnelle telle que la nôtre, son âme, elle était dans la préexistence avec les âmes de toute sa descendance, tout simplement. Et à partir de là, comme le démontre l'aspect linguistique même de cette ayah, je vous cacherai pas que le jour où j'ai entendu cet homme, je me suis souvenu déjà des propos qu'on attribue à Ibn Malik, d'autres à d'autres grands savants, là où il est dit وَلَمَّا كَانَتِ الْعُلُومُ مِنْحًا إِلَهِيَ ou bien مِنْحَةً إِلَهِيَ, du fait que la science, les sciences soient un don de Dieu, Dieu pourrait donner à ceux qui sont venus tardivement ce qu'il n'a pas donné à ceux qui étaient les premiers. فَإِنَّ اللَّهَ فَيَفْتَحُ عَلَى الْمُتَأْخِرِينَ بِمَا لَمْ يَفْتَحْ بِهِ عَلَى الْمُتَقْدِمِينَ ou كَمَا قَالُوا. Donc, c'est comme si je venais d'écouter ce verset pour la première fois. Et c'est vrai, vous ne trouverez pas dans le Coran un ordre divin qui ait été précédé par une préposition. Il est dit, selon les propos d'Ibn Mas'ud, إِذَا سَمِعْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ou bien فِي كِتَابِ اللَّهِ فَرَعَهَا سَمْعَكَ. Sois attentif, ouvre bien tes oreilles. فَإِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ, c'est soit un bien auquel tu seras exhorté, ou bien un mal qui te sera rendu interdit.
Et qu'en est-il lorsque c'est Dieu qui commence en premier à faire l'action dont il a ordonné à ses dévoués?
Il va faire l'action. Et alors que lui, il est azali, c'est-à-dire qu'il était là avant même que la notion de temps n'existe. Ensuite, ce sont ses anges qui sont venus avant Adam. Donc nous sommes toujours dans la préexistence. On peut dire aussi pré-éternité, parce que la marche de l'histoire n'a pas encore commencé, du moins pour nous les êtres humains. Et donc ce temps dont nous parlons, il est là, est-ce qu'il est linéaire et il va du passé vers le futur? Nous en avons déjà parlé. Maintenant, avec le développement de la physique quantique, nous ne savons plus. Ça devient carrément de la magie, de la sorcellerie. Et le problème, c'est que toute cette grandeur, toute cette immensité, tout rejoint le texte coranique. Il ouvre le débat sur tout. Et à partir de là, nous allons comprendre que cette salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam est d'une importance capitale, plus que capitale. Les musulmans qui ont réussi avant nous vivaient dans des conditions qui étaient supra-difficiles. Je ne trouve pas de terme, surtout si on parle pour les Algériens d'il y a à peine 70 ans, ils étaient dans des conditions plus que lamentables, ils étaient à deux doigts de l'anéantissement, de l'effacement. Nous aurions même pu subir ce qui a été subi par ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, qui sont en fait les vrais Américains, et ceux qui sont de la trempe des politicards américains sont des « migrants ». Comme j'ai l'habitude de le dire, ils aiment pas ça, mais vous êtes des migrants.
Bien sûr.
Vous n'êtes pas les autochtones.
Mayflower Compact 1621,
oui.
L'histoire est là.
Et donc, ces gens-là qui étaient avant nous, avec le peu de connaissances qu'ils avaient, dans leur bouche, Allahumma salli alayki ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah, etc. Des petites formules comme ça qui les ont maintenus dans un état d'humanité qui est bien supérieur au nôtre.
C'est comme ça qu'on l'appelle en Kabylie. Nos vieilles mamans et nos grands-mères.
C'est tout ça qu'il va falloir méditer.
Kamel Soukat, aimez-vous vos parents et vos grands-parents?
Heureusement.
Imaginez que cette salat sur le prophète alayhi salatu wasalam soit une façon d'assurer la piété filiale envers vos parents et grands-parents.
Ça serait une aubaine, parce que c'est d'autant plus facile que de faire preuve de piété filiale sur le plan pratique.
Alors, l'alama Shangi a dit « Inna salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam tu'addu min birri rajuli bi abihi wa dhalik anna al-malak alladhi yubalighu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salat an-nasi alayhi yaqul ya Muhammad inna fulan ibn fulan salla alayk fa yakunu al-mar'u sababan fi dhikri ismi abihi 'inda rasulillah wa hadha min a'zami al-birr sallallahu ala sayyidina Muhammad.
Oui, c'est une façon de voir les choses, c'est vrai. Moi, je suis conscient d'une chose, plus j'apprends, plus je me rends compte de mon ignorance.
Ça, c'est vrai.
Et je vous assure, je vous jure devant Dieu que je ne suis pas en train de le dire par humilité. C'est une réalité. Mmh. C'est quelque chose qui me donne envie de pleurer. Prenez par moment un livre. Vous êtes avec un savant en train de discuter, vous, et vous apprenez une chose et vous vous dites, subhanallah, finalement, comment est-ce que j'ai pu passer à côté de cela? Maintenant, quel usage faire de ce que nous avons accumulé comme connaissance?
C'est cela.
Est-ce que ces connaissances vont nous permettre d'accéder au paradis, ou est-ce que nous allons les utiliser pour devenir des vecteurs du mal, comme le font certains?
Yatek Saha, merci à vous Kamal Shekat, merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc soyez présents avec nous tous les vendredis à 5h et à 14h et sur notre page sur x.com, au cœur de l'islam, chaîne 3. N'oubliez pas de consigner vos remarques, vos retours. Merci à vous, bon week-end, au revoir.